Vendredi 20 mars 2020, il vient d'être 18h au studio Kalangou, l'heure du journal en français avec Rafika Taher. Au sommaire, aujourd'hui, un premier cas de coronavirus détecté hier à Niamey. Le gouvernement lance un appel au respect strict des mesures de prévention. Après l'annonce du premier cas de coronavirus, les associations musulmanes et chrétiennes du Niger ont décidé de suspendre les prières collectives. Plus de détails dans ce journal. Dans la région de Diffa, l'insécurité impacte beaucoup sur le pastoralisme qui représente la deuxième activité de la région. Des explications dans la partie magazine ce soir. Le Niger a enregistré jeudi son premier cas de coronavirus, a annoncé le ministère de la Santé dans un communiqué. Il s'agit d'un Nigérien de 36 ans, magasinier d'une compagnie de transport terrestre qui a voyagé suivant l'itinéraire Lomé, Accra, Abidjan et Ouagadougou, sans préciser la date d'entrée du sujet sur le territoire nigérien. Selon le ministre, le patient est pris en charge et son état est stable. Toutes les dispositions sont prises pour circonscrire la pandémie. Le gouvernement appelle la population au respect strict de toutes les mesures de prévention. Pour éviter la propagation du coronavirus au Niger, les autorités sanitaires insistent sur la prévention et les gestes barrières. Selon le directeur de la surveillance de la riposte aux épidémies, c'est la principale stratégie déployée par le ministère de la Santé. Adamo Mustapha, au micro de Diallo Maria Makenda.
Les éléments sur lesquels aujourd'hui nous sommes en train beaucoup d'insister, c'est la limitation de contact, la limitation des voyages et particulièrement le confinement. On a recommandé le respect des distances quand vous êtes dans des rassemblements. Les rassemblements, même au-delà de 50 personnes, sont interdits. Donc, de surcroît, contact interhumain, en tout cas, respectons au moins sur les 1 mètre. Et le lavage, on a beaucoup insisté sur les mesures d'hygiène. Je ne reviens pas là-dessus. Ça, c'est des mesures nouvelles sur lesquelles il faut encore insister. Ensuite, surtout le confinement aujourd'hui. Pour tous ceux qui voyagent, qui viennent particulièrement des zones affectées, on a des dispositions qu'on a mises en œuvre qui constituent le confinement depuis l'aéroport et on leur dit auto-isolement. Auto-isolement veut dire chez soi, on reste dans sa chambre, isolé de tout contact, y compris la famille, les enfants, les visiteurs, et la personne doit rester pendant 14 jours. Il y a des équipes qui vont venir régulièrement. On le faisait avant, mais maintenant c'est devenu vraiment plus intense.
Dans sa stratégie de prévention contre le coronavirus, le ministère nigérien de la Santé recommande l'auto-isolement pour les personnes en provenance des pays contaminés et confirme l'interdiction des ateliers et séminaires jusqu'à nouvel ordre. Adamo Mustapha, directeur de la surveillance et de la riposte aux épidémies, au micro de Diallo Maria Makenda.
Auto-isolement veut dire qu'on reste dans sa chambre, isolé de tout contact. Les équipes font la visite gratuitement. Ils vous informent à l'avance parce que dans l'aéroport, vous avez laissé un contact sur lequel on peut vous avoir. Et donc, le lendemain, on vous appelle et on dira, donnez-nous votre position, votre quartier. Et bientôt, on va fermer le zonage de la ville. Dès que quelqu'un est positionné dans un quartier, quelle équipe va s'en occuper. Et comme ça, matin, le soir, ils vont venir checker votre température, rechercher quelques signes qui peuvent évoquer la maladie. Et si jamais il y a ces signes, alors on passe à l'étape de la prise en charge, c'est-à-dire les examens. Et si jamais il y en a, alors là, c'est la prise en charge au niveau des centres de prise en charge.
Après l'annonce du premier cas de coronavirus au Niger, le chef du gouvernement et les différents leaders religieux sont convenus de certaines dispositions. Le Conseil islamique a décidé hier de suspendre les prières collectives dans les mosquées à compter de ce jour. Écoutons un extrait de la déclaration lue par un membre du Conseil islamique.
Le Conseil islamique du Niger, élargi aux autres regroupements des associations islamiques, décide immédiatement de la suspension de la fréquentation de toutes les mosquées de vendredi et des prières collectives. Invite les musulmans, en particulier les oulémas, à multiplier les prières et invocations pour qu'Allah protège notre pays de ces fléaux. Selon Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque entend le musulman appeler à la prière et qu'aucune contrainte ne l'empêche de se rendre à la mosquée, sa prière chez lui n'est pas acceptée. » Les sahaba l'ont demandé « Qu'est-ce que c'est que la contrainte ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « La peur ou la maladie. »
Les chrétiens ont également décidé de suspendre les prières collectives et autres manifestations dans les différents lieux de culte. Suivez aussi un extrait de la déclaration avec le révérend Sabo Bachiri.
Les communautés chrétiennes du Niger décident suspension jusqu'à nouvel ordre de tous les cultes dominicaux et de toute autre réunion dans les églises à compter du 19 mars 2020. Les mariages, les baptêmes, les obsèques, les séminaires et les rassemblements de groupes et mouvements sont suspendus. Invitons les chrétiens à respecter toutes les mesures prises par le gouvernement. Invitons les fidèles à prier individuellement ou en famille. Invitons les leaders religieux à faire respecter ces mesures pour sauvegarder la vie des uns et des autres.
C'était des propos recueillis par nos confrères de la radio et télévision Labari. Toutes les frontières terrestres du Niger sont fermées pour une durée de 2 semaines renouvelable à partir de ce jour. C'est une décision du président nigérien Issoufou Mahamadou en vue d'éviter la propagation du coronavirus. Ce matin à Gaya, ville frontalière avec le Bénin et le Nigeria, cette fermeture des frontières terrestres est diversement appréciée par la population. Écoutons quelques-uns au micro de Fadel Alou.
Je me dis que c'est compte tenu de la situation que nous vivons actuellement. Donc je me dis que c'est une très bonne chose pour notre protection.
Même si on ferme les frontières, on transporte des vivres à partir de Malinville et de Gaya. Donc on doit assurer un acheminement régulier des vivres, quand bien même les gens ne partent pas, c'est mieux.
Ce n'est pas la fermeture des frontières qui va nous épargner d'attraper la maladie. Quand Dieu fait descendre une maladie, quand il l'arrête, elle s'arrête. Nous devons implorer Dieu par des adouas.
La fermeture de la voie, c'est une bonne chose, c'est très bien, mais il ne faut pas que ça dure.
Qu'ils prennent patience. 2 semaines, ce n'est rien. Tant qu'il y a la vie, tout est passager. Notre seule inquiétude, c'est par rapport au vivre. Et là aussi, nous nous en remettons à Dieu.
Suite aux mesures de précaution prises par le gouvernement nigérien pour protéger la population de la pandémie du COVID-19 ou coronavirus, le ministère nigérien de la Justice a suspendu toutes les audiences publiques du 20 au 25 mars 2020. Toutefois, un service minimum sera assuré par les présidents des juridictions, les procureurs généraux et procureurs près des dites juridictions et les greffiers en chef. Toujours selon ce communiqué publié ce jour, les visites aux détenus sont interdites à partir du 20 mars et ce pendant 3 mois, mais les colis et les repas venant de l'extérieur pour les détenus sont autorisés. Nous l'annoncions dans notre édition hier, 15 personnes interpellées le 15 mars dernier à Niamey à l'issue du meeting interdit ont été présentées hier au procureur de la République. Selon les proches des 6 acteurs de la société civile Moussa Tchangari, Halidou Munkaila, Moudi Moussa, Michael Zodi, Habibou Soumaila, Sani Shekarou ont été déférés dans les différentes prisons des régions de Tillabéri et Niamey. Les scolaires, eux, ont été relâchés. Un incendie s'est déclaré hier tard la nuit derrière l'autogare de Maradi, située juste à côté d'une station d'essence. Selon un marchand de tissus dont la boutique a brûlé, le feu est parti d'une échoppe de vente de carburant fraudé. Sani Oumarou au micro de Mohamed Maman.
Cet incendie a pris sa source au niveau des revendeurs d'essence. Alors, lorsque le feu s'est déclenché, il y a une boutique de pièces détachées qui s'y trouve, dans laquelle il y a beaucoup de produits inflammables. Alors par ce fait, le feu a pris plus d'envergure. Nous, c'est juste après avoir quitté le lieu qu'il nous a été signifié que même nos boutiques ont pris feu. Alors je suis arrivé ici aux environs de 0h. À mon arrivée, il y avait le feu partout. Selon les personnes trouvées sur place, il semblerait qu'un véhicule de sapeurs-pompiers est déjà venu. Il a vidé son contenu, mais le feu continuait. Un deuxième véhicule est arrivé qui aussi a vidé son contenu, mais le feu est toujours là. S'il n'y avait pas eu cette rupture d'eau, il se pourrait que nous puissions retirer quelques-uns de nos articles. Oui, les boutiques sont nombreuses, environ 15 comme ça.
ce 20 mars 2020 est célébré le 50e anniversaire de la Journée internationale de la francophonie. L'OIF, à sa création en 1970 à Niamey, est inscrite dans un mouvement de coopération internationale entre les pays membres. Pour la secrétaire générale de l'OIF, il faut recentrer cette coopération entre les pays autour des grands enjeux stratégiques mondiaux. Un extrait du message de Louise Mushikiwabo du site web de l'OIF.
Aux sources de la francophonie, en 1970, sur les bords du fleuve Niger, 21 dirigeants des 5 continents ont scellé une entente pour inscrire leur pays, ses mosaïques de langues et de cultures, dans un vaste mouvement de coopération internationale. Il y a donc un idéal de solidarité partagée grâce à la langue française. 50 ans après, des liens aussi solides qu'inédits se sont tissés entre les peuples francophones autour des valeurs communes. Pour inscrire résolument la francophonie dans l'avenir, il nous faut davantage le respect de l'état de droit, de la démocratie, des droits de l'homme et de l'égalité entre les femmes et les hommes. La francophonie de l'avenir est donc l'adaptation aux défis du monde actuel qui nous permettront d'être plus pertinents et plus efficaces et partant d'aller plus loin et de voir plus grand.
Pour marquer ce cinquantenaire de l'OIF qui compte à ce jour 88 États et gouvernements membres, le ministre nigérien des Affaires étrangères a annoncé la construction d'un monument au quartier Poudrière à Niamey. Au Niger, le pastoralisme est la deuxième activité après l'agriculture. Selon les chiffres présentés dans le code rural, le pastoralisme représente 11% du PIB national et 35% du PIB agricole. La région de Diffa est l'une des régions où l'élevage joue un rôle important dans la vie des populations. Mais depuis bientôt 5 ans, l'insécurité impacte beaucoup sur la mobilité des éleveurs et leurs troupeaux, indique Abdourahmani Mahamadou, doctorant sur les questions du pastoralisme en lien avec l'insécurité dans le bassin du lac Tchad. Il explique au micro de Nafisa Adamou.
Avant la crise, la région de Diffa, on a des éleveurs qui sont mobiles entre la région de Diffa, le nord du Nigeria et la région du lac Tchad. Et certains, ils partent même jusqu'au nord Cameroun. Alors, à l'heure actuelle, les éleveurs de Diffa sont fortement impactés par cette situation d'insécurité. Leur zone de pâturage ou leur zone de parcours est la zone où l'insécurité sévit. Donc, le nord du Nigeria, particulièrement dans l'état du Bornou. Cet état du Bornou-là, pour les éleveurs du Niger oriental, constitue une zone de repli, une zone où beaucoup d'éleveurs transhumants, par exemple, je prends les Wodabé, les Bokologi qui viennent du nord du Cameroun, ensuite les éleveurs du Niger, les Fulbé, partent quasi toute la saison sèche, alors que ils remontent au Niger, à la région de Diffa pendant la saison pluvieuse. Du coup, cette région est maintenant sous l'insécurité de Boko Haram, et donc ça a contraint ces éleveurs-là de remonter au Niger, malgré que la zone de Diffa, vous savez, c'est une zone où les pâturages sont toujours déficitaires.
Et pendant cette période de crise, alors, que font ces éleveurs?
Généralement, ils partent soit du lac Tchad, parce que c'est une zone lacustre, donc on a des fourrages, plus ou moins, malgré que le lac s'assèche souvent, ou bien ils partent aussi au Nigeria.
Et depuis des mois, les frontières nigériennes sont fermées.
Bien avant même la fermeture de cette frontière, ces éleveurs-là ont déjà, plus ou moins, certains sont contraints de remonter, ils ont déjà quitté la frontière. Mais il faut dire que ces éleveurs sont fortement impactés, à la fois sur leur système de production, parce qu'ils ne peuvent plus bouger, ça se sur leur économie, parce que les éleveurs mobiles n'ont pas de champs, donc ils tirent l'essentiel de leur revenu à partir de cet élevage. Alors cet élevage-là, maintenant, il n'est plus fonctionnel. Les animaux sont fortement amaigris, ils sont affaiblis, et ensuite le prix d'animaux a chuté.
Quelle sera la situation à long terme si ça persiste?
Alors si la situation à l'état actuel continue avec le mouvement djihadiste, c'est qu'on tend vers l'arrêt de la mobilité. C'est-à-dire que les éleveurs ne peuvent plus bouger. Et s'ils ne peuvent plus bouger, donc certains sont obligés de quitter le système.
Quelles sont vos propositions vraiment pour mieux sécuriser le pastoralisme dans ces zones d'insécurité?
C'est d'abord créer des corridors de sécurité pour permettre à ces éleveurs d'accéder à ces zones de pâturage. C'est de faire en sorte que les éleveurs soient aussi écoutés comme les autres populations et soient aussi assistés parce que l'assistance humanitaire privilégie beaucoup plus les réfugiés qui sont stables et surtout faire en sorte que la mobilité se maintienne quel qu'en soit le contexte.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, place à Mokhtar Hamadou pour le Forum de la presse. Bonne réception.